ont leur place au 89.1. Nous cherchons des talents de tous les horizons, passionnés de musique, d'art, de culture, ou peut-être avez-vous une expertise, un savoir unique à partager, notamment du monde académique ou de la recherche? Visitez ckrl.qc.ca pour tous les détails et pour soumettre votre projet d'émission. Devenez une force créative bénévole et enrichissez la programmation de CKRL.
Radio.
Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, l'heure de se mettre un peu de science dans les oreilles. J'espère que vous avez profité du beau soleil d'hier pour aller dehors et peut-être avez-vous fait un peu de géologie car c'était hier la journée internationale de la géodiversité. Alors on en parle à 18h30, mais pour l'instant on va parler littérature. Il y a sans doute quelques amateurs ou amatrices de polar qui nous écoutent, alors que diriez-vous d'un polar scientifique? Je vous propose de suivre les aventures scientifiques de l'agent Keller, personnage principal du livre « Mirage synthétique » écrit par Éric Harvey, ici présent. Bonjour Éric.
Bonjour Valérie, merci de m'accueillir.
Ah bah c'est toujours un plaisir, je dis toujours parce que c'est pas la première fois que tu viens en fait. Tu nous as déjà présenté d'autres livres qui font intervenir cet agent Keller. Mais il faut aussi préciser que tu es scientifique toi-même, là. Tu es ingénieur en technologie numérique au CIMI, c'est le Centre en imagerie numérique et médias interactifs. Et tu écris des romans policiers avec une intrigue scientifique. Alors avant de parler de Mirage synthétique, bah, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui te pousse à écrire? Qu'est-ce que tu trouves dans l'écriture et que peut-être tu ne trouves pas dans ton travail d'ingénieur?
J'ai été, en fait, dans le domaine de la recherche depuis plus d'une trentaine d'années. Mm-hmm. Donc, j'ai toujours été amené dans les projets de recherche à rédiger, par exemple, des rapports sur les projets. Et puis, bon, j'ai peut-être rédigé peut-être plus d'une centaine de rapports, mais ça n'a jamais été public. C'est toujours privé, c'est toujours pour des clients. Bon, fait que donc, je me suis dit, bon, j'aimerais montrer ce que je fais ou montrer ce qu'est-ce qu'un chercheur fait, le genre de travail qu'on fait. Fait que je me suis dit, bon, OK, pourquoi pas écrire un roman qui, finalement, décrirait un peu c'est quoi le métier de chercheur, c'est quoi la démarche, et puis aussi des sujets de recherche scientifiques. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu faire, en fait. Mm-hmm.
Ouais. Mais il faut quand même rassurer les auditeurs, le style, c'est quand même des romans avec un style littéraire là, que tu nous proses. D'ailleurs, c'est quand même assez bien écrit là, d'un point de vue littéraire. Je trouve qu'il y a quand même une belle prose. Donc, c'est pas un style, c'est pas un rapport froid de recherche. Là. On parle vraiment de littérature. Là.
Non, non, non.
On n'est pas dans le rapport de recherche.
Non, 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 à proprement parler. Ouais. Malgré que quand j'écrivais des rapports, c'est ce que j'aimais faire, écrire des rapports, contrairement à la majorité qui n'aime pas ça.
Ouais.
Moi, j'aimais bien. Et puis, donc, parce que, au fond, un rapport, c'est l'histoire d'un projet.
Oui.
Hein? Donc, tu racontes comment le projet a été. Bon, t'as un intro, t'as le cœur.
Tout à fait.
Et t'as la conclusion. Donc, je me suis dit, bon, OK. Donc, je pense que je suis capable d'aller plus dans une forme littéraire de la fiction.
Oui.
Ouais. Donc, c'est ça qui m'a amené là.
Peut-être que tu étais capable de donner des rapports, d'écrire des rapports qu'on avait envie de lire, alors, justement,
Peut-être.
Contrairement à bon nombre de rapports qui sont un peu froids. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de suspense dans les rapports.
non, ça peut être assez ardu, souvent.
Alors, venons-en donc à Mirage synthétique, avec cet agent Keller, qu'on retrouve de livre en livre. Donc, qui est l'agent Keller?
Bon, l'agent Keller, c'est une femme, en fait, qui a fait des études. En fait, elle est allée plus en physique. Elle a commencé en physique, puis, elle a bifurqué vers l'informatique. Fait que c'est une personne qui est spécialiste en cryptographie, donc données, sciences des données. Puis elle a des compétences vraiment pour œuvrer dans une section qui s'appelle une section technoscientifique, mm-hmm. dans un centre de sécurité et de renseignement. Mm. Et au Canada, qui est situé au Canada.
Bon. Oui, c'est ça, c'est situé ouais. au Canada. Et ouais. C'est ça qu'on apprécie aussi dans tes livres. Donc, il y a du Canada, mais il y a même aussi un peu de Québec, un peu du Québec. Donc, il y avait dans un livre précédent, on était à Manicouagan. Oui. Là, c'était dans le dernier crépuscule, je crois, là, qu'on se situait à Manicouagan. Là, dans Mirage synthétique, bah, on se promène à Valcartier, on se promène sur les plaines d'Abraham, on se promène à Brecqueville. Puis c'est intéressant parce qu'au fond, on est dans une aventure scientifique futuriste, mais aussi on est chez nous, ça nous parle. C'est voulu que de situer l'intrigue au Québec, une partie de l'intrigue au Québec?
Oui, parce que c'est souvent la littérature que je lisais, bon, style techno-thriller, des science-fiction, ben ça se passait souvent, on sait, aux États-Unis.
Oui, c'est vrai.
Donc, étant donné que j'ai été dans la recherche, j'ai côtoyé beaucoup d'entreprises de haute technologie. Et puis, on est vraiment des entreprises de haut niveau, de calibre international. Fait qu'il peut se passer aussi des choses ici, ouais. autant qu'il pourrait se passer aux États-Unis. Fait que donc, oui, l'action se passe ici, dans la ville de Québec, ça peut être Montréal, ça peut être... Quand on se promène un peu partout au Québec, parce qu'il y a soit ouais. des entreprises ou soit des centres de recherche de haut niveau. Qu'on peut utiliser comme mise en scène de mes romans.
Oui, exactement. Puis donc, on se sent, ça nous parle, il y a des noms, on voit la Tour Martello ou d'autres, donc ça nous parle, on se sent chez nous, mais en même temps, il y a quand même cette intrigue, un drone militaire qui est détruit par un OVNI et qui disparaît. Et puis là, on est à Valcartier d'ailleurs. Donc, et c'est là qu'arrive l'agent Keller, parce qu'elle est chargée de résoudre le mystère de cet OVNI.
Oui, c'est ça. Donc il y a comme une collision entre une soi-disant OVNI avec un engin, où ils sont en train de tester un engin militaire. Mais donc, ils retrouvent des débris. Et puis, c'est là que l'enquête commence, qu'il faut que le gouvernement canadien essaie de savoir l'origine. Donc, c'est ça. Donc, Anne va s'entourer d'une équipe de chercheurs, parce que c'est ça, en fait, la recherche, c'est souvent un travail d'équipe. Donc, contrairement à un polar policier, où c'est souvent l'enquêteur qui tout seul résout tous les mystères. Donc ici, Anne, elle est toujours entourée d'une équipe de scientifiques, chacun dans son domaine.
Oui. Donc, elle va chercher un coéquipier à McGill, je crois, à l'université McGill.
Oui, c'est ça.
Puis bon, on dit OVNI. Donc, OVNI, objet volant non identifié. Mais dans le livre, OVNI, c'est autre chose. Mais peut-être qu'on n'est voilà, pas le punch de ce que c'est OVNI.
Oui, ben en fait, c'est ça. Donc, c'est un objet qui, finalement, a des propriétés particulières qui sont dues à des métamatériaux qu'on va découvrir. Et puis, ça produit des phénomènes, justement, qui est un peu l'objet du livre, qui est un peu l'intrigue, là.
C'est ça.
Qui est à découvrir, là, en lisant le livre.
C'est ça. Et c'est là qu'arrive la science. Donc, justement, on découvre ces métamatériaux. Moi, je ne connaissais pas les métamatériaux, donc je me suis dit au premier abord, tiens, c'est quelque chose qu'il a inventé, là, que Eric a inventé, mais non, ça existe. Non. Et donc, tu fais référence dans le livre, à la personne, au scientifique, qui a défini, qui a théorisé ces métamatériaux. Qu'est-ce que c'est, ces métamatériaux?
Des métamatériaux, ce sont des composés qui sont complètement artificiels, donc on ne le retrouve pas dans la nature. Donc, c'est comme si tu formais un composé qui serait formé, par exemple, d'atome par atome, avec une structure différente que qu'est-ce que tu retrouves dans la nature directement.
OK. Donc, c'est pas comme un matériau composite, c'est plus compliqué que ça, parce
complexe.
Qu'on va jouer
au niveau atomique. Donc, on va varier la structure atomique d'un matériau de manière... artificiel pour lui donner des propriétés qu'on veut bien donner. Donc, c'est ça, un métamatériau qui va au-delà, finalement, d'un matériau naturel.
Mm-hmm. Et ça a été théorisé, je ne me souviens plus, c'est le nom du scientifique, du physicien russe là, qui a théorisé ça, mais ça date quand même de plusieurs décennies.
Oui. Les premiers concepts ont été faits par un scientifique, un physicien, Richard Feynman, qui est le prix Nobel de physique, qui a fait le premier. Lors d'une présentation, il avait dit qu'un jour, on serait capable de manipuler les atomes pour mm-hmm. produire des matériaux, des composés. Puis après ça, plus dans les années 80, là, il y a de l'instrumentation qui a été développée. Par exemple, le microscope à effet tunnel qui permet de voir des atomes directement et même de les manipuler jusqu'à un certain point.
Mm-hmm.
Puis ensuite, dans les années 80, il y a un livre qui est sorti par un chercheur qui s'appelle Eric Drexler. Lui a vraiment popularisé le domaine de la nanotechnologie avec un livre qui s'appelait « Les machines de la création mm-hmm. », donc l'ère des nanotechnologies. Donc c'est un peu... Ça a fait en sorte que ça a démocratisé nanotechnologie.
Mais là, c'est plus que nanotechnologie. Si on est à l'échelle atomique, là, c'est plus petit que nanotechnologie.
En fait, si on veut situer... le domaine des atomes se situe entre 1 et 100 nanomètres.
Mm-hmm.
Donc, c'est un nanomètre, c'est
10-9
mètres. Mm. Donc, donc, pour situer un peu une échelle, mettons un virus, c'est de l'ordre d'une dizaine de nanomètres. Mm-hmm. Une centaine de nanomètres, on arrive aux bactéries. Puis un cheveu est de l'ordre de 100 000 nanomètres, donc 0.1 millimètre de l'ordre de. Donc, c'est un peu l'échelle. Donc, on est capable. Donc, les nanotechnologies réfèrent vraiment au domaine des atomes à ces niveaux-là. Mm.
Donc, et puis, donc là, c'est des métamatériaux qui ont des propriétés optiques. Donc, on fait un petit peu d'optique aussi.
Oui, surtout si je reste dans mon domaine, justement. Ouais. Moi, je viens du domaine de l'optique. Donc, on peut avoir des matériaux optiques qui vont, par exemple, soit du verre ou de la fibre optique, par exemple. Bon, on serait capable de fabriquer un métamatériau qui produirait des propriétés optiques différente de ce que tu obtiendrais avec un matériel standard.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça un peu. Puis le métamatériau en question dans mon livre, c'est un matériau qui est capable de faire dévier la lumière d'une certaine façon que pour produire un phénomène que tout le monde recherche. C'est le Saint Graal, éventuellement. de l'utilisation de métamatériaux.
Donc, et c'est là que l'agent Keller doit faire son enquête pour découvrir qui est derrière la fabrication de cet ovni fait de ce métamatériau. Mais donc là, tu disais, on est capable avec des instruments particuliers, des microscopes à effet tunnel ou peut-être d'autres choses, de manipuler les atomes un par un pour fabriquer un petit peu de métamatériaux. Mais là, dans le livre, c'est à grande échelle et c'est là qu'on arrive dans la science-fiction peut-être, parce qu'on n'en est pas là.
Non, c'est ça. On peut fabriquer des petits composants, mais quand c'est ça, comme tu viens d'expliquer, quand on arrive à des échelles plus grandes, mettons l'échelle d'un mètre ou de plusieurs mètres, c'est là que on n'en est pas rendu là. Donc ce que j'explique dans le livre, c'est plus la science-fiction. Comment on pourrait produire un métamatériau complexe à grande échelle?
Dans le livre, on fait appel à l'impression 3D pour
exactement.
Donc là, c'est quand même une technologie qui existe.
Oui, ça existe.
On sait qu'on est capable de faire des trucs compliqués avec l'impression 3D. Ouais. Peut-être qu'un jour, on pourra faire aussi ces fameux métamatériaux. Mm. Comment t'es venue l'idée? Donc, on ne veut pas livrer le punch là, de cet ovni, mais comment t'es venue l'idée de ces métamatériaux? Est-ce que c'était quelque chose que tu travaillais? C'est quelque chose sur lequel tu travaillais toi-même au CIMI?
Non, c'est pas un domaine que je travaillais. Je pense que c'est plutôt le fait que c'est un thème de roman science-fiction que j'avais vu. Mm. Donc, c'est comme un peu revisiter un thème de science-fiction du... comme l'auteur H.G. Wells, mm-hmm. qui a eu plusieurs romans d'anticipation. Puis ça me tentait de revisiter le thème, dont ce thème-là que j'exploite dans le livre. Ben c'est à partir de ce thème-là que je me suis commencé à m'informer comment on pourrait réaliser cet aspect-là dans le livre, de dire OK, on produit un effet qui va donner le résultat avec des métamatériaux. Donc c'est un peu comme ça que je t'ai dit. Donc c'est à l'envers en fait que j'ai procédé.
C'est ça. Tu avais besoin de ce phénomène-là, de repiter ce phénomène. Bon, c'est vrai, c'est un phénomène, classique quand même.
Oui, quand même.
C'est vrai. C'est un classique.
Oui.
Mais à l'aune des technologies nouvelles, des technologies d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire scientifiquement pour fabriquer ces matériaux? Donc là, Jean-Claire va faire son enquête. Elle va finir par résoudre l'intrigue. Et alors ça a l'air d'être compliqué, mais ce dont on parle là, mais en réalité quand on lit, on n'a pas vraiment besoin de savoir si ça existe ou pas, ou quels sont les procédés. On peut lire, je ne veux pas faire peur aux auditrices, c'est pas un livre, même s'il y a de la science à l'origine du livre, on peut lire le livre sans rien connaître des métamatériaux et considérer que c'est juste un matériau du futur.
Oui, c'est ça. Donc, je vais pas en super profondeur dans les concepts. C'est un peu en surface. C'est un peu pour que les gens s'intéressent un peu au domaine des nanotechnologies. Donc, que j'amène. Et comme tu dis, non, on n'a pas besoin de...
On n'a pas besoin de connaître les principes d'optique, d'avoir fait des études en nanotechnologie ou pour le livre. On peut lire, on peut passer par-dessus ces petites explications et se dire...
Mais il y avait quand même un petit objectif de vulgarisation quand même, hein, essayer d'expliquer quand même simplement certains concepts, optiques surtout, là, comme... Tu as pu le constater.
Oui, il y a même un schéma.
Oui, voilà, c'est ça. J'aime bien de temps en temps aussi intercaler quelques dessins, un peu comme on voyait avant dans les livres, comme Jules Verne. Tu avais toujours des illustrations, en fait, dans les romans. Fait que moi, j'aime montrer ce que je veux dire.
Oui, c'est ça. Donc, ceux qui veulent l'explication scientifique, ils vont la trouver. Puis, s'ils veulent aller plus loin, ils vont aller plus loin.
Ben, voilà,
mais d'un autre côté, bon, on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des adeptes de science, mais ils pourront quand même lire et comprendre l'intrigue. Il suffit juste de considérer que c'est un matériau du futur.
C'est ça. Mais je pense quand même que les gens sont quand même curieux vis-à-vis de la science, vis-à-vis... Puis moi, ce que je trouvais dans les livres de science-fiction, c'est que justement, c'est science et fiction. Mais il n'y avait pas beaucoup de science dans les livres de science-fiction.
C'est vrai.
Fait que c'est ça un peu mon but, c'est de mettre un peu plus de science pour que les gens s'y intéressent.
C'est ça, exactement. Donc là, on est vraiment à la croisée de la science et de la fiction, parce qu'on a de la science, mais on a aussi de la fiction, parce qu'on l'a dit, on ne peut pas fabriquer ces matériaux-là à grande échelle pour le moment. Donc c'est là.
Ouais, exact. Mais ça se passe quand même, c'est quand même contemporain. On n'est pas dans le futur lointain.
Ouais.
On est presque aujourd'hui, mais quand même, on entrevoit des possibilités de nouvelles technos, là, c'est ça?
Ouais. Alors, comme je le disais, pas besoin de connaître la physique derrière les métamatériaux pour comprendre le livre et suivre l'intrigue. Et puis, l'agent Keller résout l'intrigue. Il y a toujours beaucoup de rebondissements aussi dans tes livres. Il faut dire que c'est vivant, il y a beaucoup de dialogues, c'est ça, on se promène là, on n'est pas inactif. Oui. Là, c'est...
Oui, c'est ce que je voulais. Aussi, le livre n'est pas très long, donc je vais directement au point, puis j'essaye justement que l'action soit quand même assez rapide pour que le lecteur ne s'ennuie pas. En fait,
non, on ne s'ennuie pas vraiment. Moi, en fait, j'aurais envie que ça dure plus longtemps. Là.
OK.
Ensuite, j'arrive déjà au bout. Non, j'aurais toujours envie, une fois qu'on est rentré dedans, en tout cas pour avoir lu les trois, là, une fois qu'on est rentré dedans, c'est difficile de le lâcher. Là. On veut que ça continue. C'est ça, c'est des dialogues, c'est facile à suivre, il y a de l'action.
Ouais,
et puis, en fait, parlant des autres livres, le dernier paragraphe suggère qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans le ciel, et là, on suppose que l'agent Keller aura bientôt une nouvelle mission, donc livre en un...
j'aime bien finir, justement, par une ouverture sur le prochain livre. C'est pour ça que je l'ai fait dans Mirage synthétique. Puis je l'ai fait aussi dans le dernier Crépuscule.
Ouais.
Mais le dernier, je ne l'ai pas fait dans Menace quantique parce que Je savais pas encore sur quoi j'allais me lancer, mais là je le sais parce que je suis en train d'écrire un autre livre.
Ouais.
Donc ça va être un autre domaine. Je pense que j'en avais parlé, c'est le domaine de la mémoire.
Ah, le domaine de la mémoire.
Ouais, la mémoire à long terme.
Oh, ouais.
Donc donc ça serait le prochain sujet.
Est-ce qu'il va y avoir des neurosciences là-dedans?
Non, c'est plus on va parler plus de biologie, biotechnologie, curieusement. Donc, ça va être un mélange de bio puis de techno là, classique.
J'ai hâte de voir ça. C'est prévu pour quand la sortie?
C'est difficile à dire. J'espère au moins en 2026. Être capable de terminer. Mm-hmm. Ouais.
Mais sinon, on les trouve où, tes livres, en fait?
On les trouve, pour la version papier, on les trouve une boutique qui s'appelle Bouquinbec.
Ouais.
Donc, boutique.bouquinbec, B-O-U-Q-U-E-B-E-C, .ca.
Mm-hmm.
Donc,
Commander à
Bouquinbec. On peut les commander directement. Sinon, pour la version numérique, c'est sur la plateforme Kobo, kobo.com.
Okay.
Donc, tapez Eric R-Harvey. Puis vous allez trouver...
Eric Harvey.
Ouais,
Eric,
c'est ça.
Harvey.
Ouais.
Là, c'était Mirage synthétique.
Oui.
J'oubliais. Mirage synthétique, mais on a aussi parlé donc du Dernier Crépuscule
et de Menace quantique.
Voilà, un trio pour suivre les aventures de l'agent Keller. Et sinon, faut pas oublier que tu es quand même tu es auteur de romans scientifico-policiers, mais aussi ingénieur chercheur au CIMI, le Centre en imagerie numérique et médias interactifs. Mm-hmm. Ça, c'est associé au Cégep de Sainte-Foy. En gros, tu travailles sur quoi, en fait?
Et nous, on est un centre qui font beaucoup de technologies numériques, donc principalement développement de logiciels, donc intégration. Donc, on travaille sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, intelligence artificielle, on travaille sur les jumeaux numériques, on fait aussi des applications web et mobiles. Donc, on est quand même assez diversifié, une équipe multidisciplinaire.
Mm-hmm.
Et puis, c'est ça. Moi, j'agis aussi comme ingénieur système, puis en même temps, directeur technologie immersive et jumeaux numériques. Mm-hmm. Donc, on travaille à plusieurs niveaux. Donc, on fait partie d'un réseau, DCCTT au Québec, qui fait de la recherche appliquée pour les entreprises.
Mm-hmm. Donc, c'est intéressant parce que c'est donc en technologie numérique. La base scientifique de tes trois livres, c'est pas forcément de la technologie numérique au sens propre du terme. Oui, il y en a toujours parce qu'il y en a toujours un peu partout, mais ça fait pas appel à tes domaines de travail, thématiques de travail.
C'est ça, c'est certain que j'ai eu de la recherche à faire.
Ouais.
Mais moi, j'ai fait génie physique, puis on nous disait génie physique, c'est un génie qui est fait pour apprendre. C'est-à-dire que on apprend à apprendre. Moi, ce que j'aime aussi en écrivant, c'est que j'approfondis d'autres domaines que j'ai pas pu travailler dans mes recherches. Ça, j'aime ça aussi.
Peut-être qu'on aura l'occasion de se parler de ces technologies numériques sur lesquelles tu travailles au CIMI, peut-être des jumeaux numériques, peut-être.
Pourquoi pas?
Peut-être.
Pourquoi pas?
Comme ça, on verra comment les doubles faces de Eric Harvey, Eric l'auteur et Eric l'ingénieur.
Voilà, les jumeaux.
Voilà, exactement.
Ouais.
Merci beaucoup, Eric, d'être venu nous présenter donc ce livre Mirage synthétique.
Merci beaucoup, Valérie. Puis je veux juste dire, je veux remercier mon éditrice Danielle, qui est toujours avec moi, qui m'aide dans la rédaction. Donc sans elle, ça serait pas possible.
Donc ça veut dire que c'est un livre écrit à quatre mains.
Oui. Mettons que c'est lui qui a les idées, mais moi j'applique des correctifs, là, c'est ça.
Ah, okay.
Moi j'essaie de rendre ça le plus clair possible pour qu'on soit capable de comprendre là, qu'est-ce qui. C'est ça mon rôle.
Elle me garde un peu plus terre à terre pour pas partir dans des trous désenvolés scientifiques.
C'est ça, pour que ça soit le plus compréhensible possible, oui.
On attend le suivant en tout cas. Alors merci Eric.
Merci Valérie.
Merci
bien.
Merci.
Donc, on va faire une pause sur CKRL 89.1. On va écouter justement OVNI de Matt Boudreau. Et au retour, eh bien, on plonge dans la géodiversité.
Couché dans le noir devant la TV, le froid s'installe autour de mon cou. J'ai rien qu'envie de rester dans mon lit pendant que la planète fait son bout. T'es apparu comme un ovni par la fenêtre au milieu de mon champ. Je passais minuit à regarder ta vie, tandis que tes yeux volent tout mon temps. Oh belle lumière, je t'accroîtrai la dernière fois. C'est pas assez de poils pour l'hiver. Si tu me réchaufferais le cou, je t'offrirais quelque chose à croire. Tu auras le temps. Et toi tu danses dedans la nuit, et j'oublie tout pour un instant. Le son de tes pas font à des méchants bruits quand ton corps bouge comme l'océan. Oh belle lumière, je t'approuverai la dernière fois. C'est pas assez de poils pour l'hiver. Si tu me réchauffais le cou, je t'offrirais quelque chose à croire. Toutes les météorites quand tes yeux brillent dans mon champ. Qui sait ce qu'il y aura? Oh.
CKRL. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz vocal avec Elizabeth Shepherd. Call up my soul, my soul is in need of finding some direction. Figure incontournable de la scène soul jazz, elle vient présenter son nouvel album, Three Things, dans une formule trio intimiste et vibrante. Un jazz moderne, des envolées instrumentales et des chansons qui touchent au cœur. Le 18 octobre, préparez-vous à tomber sous le charme d'Elizabeth Shepherd au Palais Montcalm, Maison de la musique. Détails au palaismontcalm.ca.
Si vous aimez le rock audacieux et les sonorités originales, CKRL est votre destination toute désignée pour des découvertes musicales inédites. Explorez les frontières musicales avec notre sélection de rock progressif et d'art audio avant-gardiste. En exclusivité sur CKRL, tous les soirs.
De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au micro. Et savez-vous qu'hier était la journée internationale de la géodiversité? Oui, j'ai bien dit géodiversité et non biodiversité. Alors, pour découvrir ce qui se cache dans la géodiversité, j'ai invité Antoine Godet, il est chercheur scientifique à la Commission géologique du Canada. Bonjour Antoine.
Bonjour Valérie.
Alors, j'avoue que je ne connaissais pas cette journée internationale de la géodiversité. Et on va en parler après, mais avant, donc de cette journée-là en particulier, mais avant, j'aimerais qu'on parle de géodiversité. Parce que pour les personnes initiées, bah, une roche, c'est une roche. Hein. Mais derrière le terme géodiversifié, diversité, je comprends qu'il y a une diversité de roches. Une roche, c'est pas une roche.
Ouais, alors c'est ça. Alors c'est par un petit peu analogie à la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est tout ce qui rejoint le monde vivant. Et donc il fallait bien qu'on mette quelque part tout ce qui n'est pas vivant. Et donc tout ce qui a trait au non-vivant, c'est ce qu'on appelle la géodiversité. Alors, on pense aux roches, on pense aux minéraux, mais on pense rarement à tous les processus de création de chaînes de montagnes, l'érosion de ces chaînes de montagnes, la formation des océans, la formation des rivières, les tremblements de terre,
ah,
les volcans, c'est tout ça. C'est tous les processus géologiques au sens large.
Ah, c'est tout ça. Moi, je pensais que c'était les différents types de roches. Donc, je ne sais pas, un calcaire, un granit, un gneiss ou je ne sais
alors,
pas quoi.
Alors, ça rentre dedans, mais on va plus large que ça.
Ça va plus large. Ouais. Ça inclut aussi donc, tous les processus qui forment ces roches.
Qui façonnent notre terre au sens large. Donc, on parle du sous-sol, de la croûte terrestre, du manteau, mais on parle aussi des processus de surface érosionnelle.
Ouais, c'est vraiment c'est plus large que je le croyais. Alors pourquoi avoir décrété une journée internationale de la géodiversité?
Ouais, alors c'est une initiative de l'UNESCO de 2021, donc on a fêté cette année la quatrième année.
Ouais.
Bah le but c'est tout simplement de promouvoir cette géodiversité auprès du grand public. Hein. Bien sûr, plus on sensibilise, plus c'est facile de protéger notre patrimoine géologique. La géologie, c'est pas quelque chose dont on parle tout le temps, dans les médias.
Ouais.
Donc, je pense que c'est une vraie volonté de l'UNESCO d'en parler.
Mm-hmm.
Puis, on peut aussi, si on s'écarte un petit peu, mais les Nations Unies ont des objectifs de développement durable.
Ouais.
17 en fait, qu'on va pas tous énumérer, mais ils s'arriment quasiment tous. Ils se basent tous sur de la géodiversité. Là, tu sais, on parle d'un accès à l'eau potable pour tous.
Bah, ouais.
On fait appel à l'hydrogéologie, les ressources en eau souterraine.
Oui.
On parle d'une agriculture pour tous. Bah, on fait appel à l'étude des sols. Donc tout ça, ça rejoint la géodiversité au sens large.
Ouais, effectivement. Donc, on oublie, mais c'est notre support. C'est notre support, les roches. Et quand on parle de biodiversité, on parle souvent de perte de biodiversité, de la nécessité de protéger de la biodiversité. Est-ce qu'il y a aussi un souci d'atteinte et de dégradation de la géodiversité à cause des activités humaines? Est-ce qu'à cause de la transformation du territoire par les activités humaines, est-ce qu'on craint une perte de cette géodiversité?
Alors, c'est sûr que les activités anthropiques en tant que telles ont une influence sur la géodiversité. Tu sais, on va parler par exemple, un exemple simple, si on... on détourne un cours d'eau, bah, à ce moment-là, ça va avoir une influence très locale sur les systèmes d'érosion. Si on déforeste et qu'on fait de l'agriculture intensive, on va intensifier l'acidification des sols, on va changer les processus de développement d'érosion de sol. Donc, c'est sûr que ça a une importance particulière. Maintenant, je pense qu'il faut aussi penser à préserver le patrimoine. J'aime bien faire l'analogie avec un livre. Pour moi, les roches, c'est comme des livres. Elles ont enregistré toute l'histoire de la formation de la Terre, donc on les lit. Mais si on veut être capable de les lire encore dans plusieurs années, dans plusieurs décennies, dans plusieurs générations, il faut les préserver, ces livres-là. Donc c'est un intérêt commun de préserver ça. Puis, tu sais, c'est pas juste ça. Là, il y a aussi tout ce qui a trait autour du développement économique de l'homme. Tu sais, les ressources naturelles, les ressources touristiques. Il y a plein de parcs qui sont vraiment beaux, tu sais. Donc,
c'est vrai.
Il faut les préserver. On a des archives naturelles exceptionnel, donc c'est dans l'intérêt commun de préserver tout ça.
C'est vrai, c'est pas juste les ressources naturelles, c'est pas juste les mines, les ressources naturelles, mais c'est aussi les ressources, une ressource touristique, un beau paysage.
Absolument, absolument. On a tous marché dans des dunes de sable, hein, donc.
Ben peut-être pas tous, mais, mais plusieurs, oui. Alors venons-en à cette journée internationale de la géodiversité, parce qu'il y avait une activité de découverte aux chutes Montmorency. Puis c'est vrai que quand on va voir les chutes, on regarde l'eau, on est impressionné par le débit d'eau et on ne regarde pas toujours les roches. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Quelles roches on voit aux chutes Montmorency? En quoi c'est un site important en termes de géodiversité?
Oui, alors en fait, la ville de Québec est à une... naturellement est située à une jonction entre trois grandes provinces géologiques, trois grands ensembles de roches qui ont enregistré à peu près 1 milliard d'années de notre histoire géologique sur la Terre. Et puis à Québec, c'est ça, on est à la jonction, donc si je peux me permettre de rapidement expliquer ce que c'est, tout ce qu'il y a dans le bouclier canadien, donc les Laurentides, c'est côté Charlebourg, Stoneham et tout ça, les montagnes qu'on voit en arrière, finalement ça c'est les racines d'une ancienne chaîne de montagnes qui a environ 1 milliard d'années. Puis depuis elle a été érodée et donc on voit le cœur de ces racines-là.
Paraît-il qu'avant elle était haute de 8000 mètres?
On pense à l'Himalaya, là, c'est à peu près la même taille.
Incroyable.
Il y a eu de l'érosion pas mal. Ensuite de ça, on a d'autres types de roches qui sont des roches sédimentaires, des calcaires avec des fossiles dedans, qui appartiennent à ce qu'on appelle les basses terres du Saint-Laurent. Puis ça, c'est les témoins d'un ancien océan. Donc il y a environ 450 millions d'années, à Québec, il y avait un océan, type océan équatorial, là, dans des eaux chaudes. Et puis on a déposé des sédiments au fond de la mer qu'on retrouve aujourd'hui à Québec. Et puis si on s'en va de l'autre côté du fleuve, en rive sud, on est dans une autre chaîne de montagnes qui s'appelle les Appalaches. Cette chaîne-là, elle s'étend du sud des États-Unis, c'est Alabama, Caroline du Sud, jusqu'à Terre-Neuve. Et puis, cette chaîne-là, elle est un petit peu plus récente, environ 400 millions d'années, mais encore une fois, qui nous offre des archives géologiques sur ce qui s'est passé à ce moment-là, comment les plaques tectoniques ont bougé à ce moment-là. Et donc, pourquoi la chute Montmorency? Parce que on peut apprécier toutes ces caractéristiques géologiques et voir ces trois provinces géologiques à la chute Montmorency.
Ah oui?
Ouais. Alors, un autre fait intéressant, c'est que la chute, elle n'est pas là par hasard. La chute, elle coule sur une ancienne faille géologique. Cette faille-là, c'est une faille majeure qui s'est formée il y a environ 600 millions d'années. Au moment où on était en train de décarteler, si je peux dire, un continent, on était en train de créer un océan. Et donc, pour accommoder ça, la croûte terrestre fait de grands accidents tectoniques, des grandes failles. Et aujourd'hui, cette faille-là, c'est sur le plan de cette faille-là que coule la chute Montmorency. Alors, si on veut s'en rendre compte, on peut aller voir la chute Montmorency. Et puis, si on regarde du côté des escaliers qui montent, là, on voit que les roches, finalement, elles ont un certain angle. On voit que c'est des roches très friables et elles ont toutes un angle à peu près 50 degrés. Ces roches-là, elles se sont déposées à la base à l'horizontale dans un océan, dans le fameux océan Iapétus, il y a environ 450 millions d'années. Puis là, elles sont retrouvées à 45 degrés. Et donc, c'est dû aussi au mouvement de cette faille Montmorency-là.
Elles ont été bousculées.
Par la tectonique, par le mouvement de la faille.
Donc là, on voit, parce que tu as dit, il y a trois, c'est la jonction entre trois
provinces géologiques.
Donc la sédimentaire, avec cette zone-là près de l'escalier.
Absolument.
Est-ce que ça veut dire que, donc à gauche de la chute, là, quand on regarde la chute, à gauche de la chute, on est dans la portion charlevoisienne, etc., le bouclier canadien?
Ouais, alors la chute elle-même coule sur le bouclier canadien.
Ouais.
Ok. Et si on se promène en haut des chutes, on va voir que les calcaires qui se sont déposés à l'horizontale, ils sont encore là. Ils n'ont pas bougé depuis environ 400 millions d'années.
C'est vrai, parce que plus loin, là, on parle des roches plates.
C'est
donc
ça,
là où
exactement.
On a un site où on peut aller se baigner, ou même c'est plus ça. Loin encore. Là, c'est, donc, c'est du calcaire, à cet endroit-là.
C'est du calcaire déposé directement sur les roches de 1 milliard d'années. Alors
d'accord.
Là, il y a un fait intéressant aussi, c'est qu'on a un gap de 500 millions d'années entre les deux. Donc, entre le moment où les roches au cœur de notre chaîne de montagne d'il y a 1 milliard d'années se sont formées, et au moment où on a déposé les calcaires dessus, il y a un manque d'enregistrement géologique d'environ 500 millions d'années, ce qui est quand même considérable.
Il est parti dans l'eau ? Il est parti en érosion ?
Oui, c'est érodé. On n'a pas de traces.
Ah, c'est parti dans l'océan.
Exactement.
Et donc, sur la rive gauche, mais donc un peu plus loin, là, donc on a des roches du bouclier canadien.
Ouais, dans le fond de la rivière, ouais.
Dans le fond de la rivière,
ouais,
ok. On les voit pas, il n'y a pas de moyen de les voir.
Si, à l'étiage, là, quand le niveau d'eau est bas, on est capable d'aller dans le fond de la rivière.
Ouais.
Justement, hier, on a organisé des excursions géologiques où on allait justement montrer le fond de la rivière et cette relation entre les différentes roches.
Ah oui, parce qu'il n'y a particulièrement pas beaucoup d'eau en ce moment.
C'est ça.
Donc ça tombe bien pour une excursion géologique.
Oui, on est chanceux.
Et donc la troisième province qui est celle des Appalaches.
Les Appalaches, on les voit. On voit juste le relief en face. Y a un fait intéressant avec les Appalaches, c'est que c'est une grande chaîne de montagnes sur plusieurs milliers de kilomètres. Et puis, cette chaîne de montagnes-là, elle a formé des failles, des grandes failles, des failles qu'on peut suivre sur plusieurs centaines de kilomètres. Et la faille la plus au nord des Appalaches, ça s'appelle la faille Logan. Et c'est celle qui fait la jonction entre la Haute-Ville et la Basse-Ville de Québec, par exemple. En fait, quand on prend les escaliers, on est en train de passer une ancienne faille.
Ah oui.
Et puis cette faille-là, on la continue quand on arrive sur l'île d'Orléans. On prend le pont, puis là, ça monte à la fin. Là, il y a quand même un petit relief.
Ouais.
Et ben, on passe cette fameuse ligne Logan, qui est une faille associée aux Appalaches.
Mais est-ce que ça veut dire que donc la portion nord du fleuve, là, entre l'île d'Orléans et
là, on est plutôt dans les calcaires, plutôt dans les basses terres du Saint-Laurent.
Okay. Donc la faille, c'est vraiment le front, là, le côté rocheux.
Ouais, on peut considérer ça.
Ok, d'accord. Et donc le sommet, la haute ville, c'est les Appalaches.
Oui, bah même la falaise et tout ça là, si on prend le temps de regarder ce qu'il y a dans la falaise, on va voir que c'est des schistes, c'est des roches qui ont été quand même maganées là pendant la formation des Appalaches.
Ouais, c'est vrai, c'est pas les mêmes types de roches peut-être. Oui. On voit de l'autre côté du fleuve là, du côté Cap Blanc, ça a l'air tout.
Friable,
voilà, c'est extrêmement friable.
Exactement, c'est pareil, c'est des roches sédimentaires déposées dans le fond de l'océan qui après ont été chauffées pendant la formation de la chaîne de montagne des Appalaches.
Ouais, fait que là, à travers ces termes-là, là, on comprend qu'il se passe des choses pour transformer, former les roches, ça se chauffe, il y a de l'érosion, ça se modifie, c'est...
Puis c'est perpétuel,
ça
se passe en ce moment, là.
Ouais. On parle des chutes de Montmorency, mais... On peut aussi retrouver un peu la jonction de deux provinces au chute Kabir-Kouba.
Ouais, c'est les mêmes provinces dont on a parlé à l'instant là. C'est juste à la portion nord de Kabir-Kouba, on va retrouver les vieilles roches du bouclier canadien, encore une fois des styles de granit là, qui ont été chauffés à haute pression au cœur d'une chaîne de montagnes. Et puis on voit clairement par-dessus les calcaires, encore une fois déposés à plat.
Ouais.
Qui appartiennent à ce qu'on appelle la plateforme du Saint-Laurent.
Ouais, donc là, on peut le voir visuellement, là, sur les deux rives de la rivière, on voit les deux types de roches. C'est intéressant parce qu'on peut se demander, mais comment ces deux roches qui sont d'origine complètement différente se retrouvent là côte à côte?
Ouais, c'est ça. Ben, il a fallu éroder beaucoup de matériel. Ouais. Hein. Il a fallu exhumer, éroder ces racines de chaînes de montagne. Qu'elle soit disponible à la surface de la Terre au moment où on a déposé nos sédiments dans le fond d'un océan.
Est-ce qu'il y a... Et de l'autre côté du fleuve, alors, du côté de Lévis, qu'est-ce qu'on voit par exemple, les esquers, là, les formes rocheuses, les grands rocheux qu'il y a du côté de Lévis, c'est quoi?
Alors, je suis pas sûr de savoir de quoi tu parles, mais du côté de Lévis, on est vraiment dans les Appalaches. Là, on est plutôt dans des roches type schisteuses, qui vont se débiter en feuillets là. T'sais. À chaque fois, on voit des morceaux de un peu comme des feuilles là qui se débitent les unes les autres là. Et puis plus on s'enfonce vers l'intérieur là, plus on s'enfonce vers la frontière, vers le sud, ben on va voir d'autres types de roches, avec des roches granitiques, des roches volcaniques, mais toutes celles-là associées encore une fois aux Appalaches.
Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de géodiversité au Québec là, si on regarde l'ensemble de la province?
Bah oui. Le Québec c'est vraiment grand là. Alors ça, on va pas pouvoir satisfaire tout le monde là, mais on peut donner quelques exemples quand même. Oui, on a parmi les plus vieilles roches au monde. On est dans le nord du Québec, au Nunavik, à l'est de la baie d'Hudson. La ceinture qui s'appelle Nouveau-Djitouk, désolé pour la prononciation, c'est environ 4 milliards d'années. Là. On regarde des roches qui ont environ 4 milliards d'années. Alors, pour rappel, la Terre a 4,5 milliards d'années. Donc, c'est parmi les plus vieilles roches au monde. Si on descend un peu plus au sud, on a d'autres chaînes de montagnes. Par exemple, si on s'en va dans les monts Tangat, au nord, à l'est pardon, du Québec. Ça, c'est une chaîne de montagnes qui a plutôt environ 1,9 milliard d'années, donc un petit peu plus vieille que celle qu'on a autour de Québec.
Mais qui sont pourtant moins érodées, elles sont plus hautes déjà.
Elles sont un petit peu plus hautes, ouais. Mais c'est ça, c'est un milliard d'années plus vieux que ce qu'il y a ici. On a aussi des faits intéressants. T'sais, à Miguacha, si on va dans la baie des Chaleurs, on a un patrimoine paléontologique et fossilifère exceptionnel. C'est classé d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a, je pense que c'est 20 000 spécimens de fossiles qui ont été retrouvés là-bas. C'est exceptionnel pour les amateurs de paléontologie. On a aussi des cratères météoritiques. Alors, il y en a plusieurs. Quand on regarde, si on se promène un petit peu sur les photos aériennes ou photos satellites, on va voir plusieurs cratères. Je pense que le plus connu, c'est le réservoir Manicouagan. Là, on appelle ça aussi l'œil du Québec. Mm-hmm. Alors, celui-là, il a environ 215 millions d'années. Mais il y en a un plus proche que nous, là, à une heure de Québec,
dans Charlevoix.
Si on s'en va vers les éboulements Baie-Saint-Paul, c'est un cratère météoritique qui a environ 450 millions d'années et qui a formé vraiment... qui a dicté le paysage qu'on voit actuellement de Charlevoix. Là. Si la meilleure façon de l'apprécier, c'est d'aller faire de la randonnée dans le parc des Grands Jardins, on va vraiment voir l'ampleur du cratère.
C'est difficile d'imaginer un cratère, on imagine ça rond, mais là, c'est difficile de se représenter, on ne voit pas très...
Alors, c'est étrangement rond, quand même.
Ouais.
Si on va dans le parc des Grands Jardins, on va vraiment voir l'arc de cercle. Okay. L'affaire, c'est qu'on n'a pas le cercle au complet, on a un demi-cercle.
Ouais.
Et puis, ça fait quand même 70 km de diamètre. Donc...
C'est pour ça que c'est difficile de se représenter, parce qu'on voit pas forcément les 70 km quand on est en haut du mont du lac des Cygnes, on voit pas forcément les 70 km.
Non, c'est ça, mais si on y pense, on peut s'imaginer un petit peu. Ouais.
Et puis tout au nord aussi au Nunavik, il y a un cratère aussi.
Il y en a plusieurs, il y a Pingalwit.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas quel âge il a par exemple celui-là, mais vraiment vraiment parfait, un rond parfait.
Effectivement. Ouais. Donc ça nous donne une idée quand même de la diversité des roches au Québec. Donc une roche, non, c'est pas une simple roche, elle a toute une histoire, cette roche là et puis on a l'impression des fois, nous comme des mortels qui ne sommes pas les géologues, que tout ça c'est immuable, que ça bouge pas, que on dit bien c'est dur comme du roc mais en fait ça change, il y a l'érosion, t'en as parlé, il y a la tectonique des plaques, il y a des pressions, il y a des températures, donc les roches sont soumises à de fortes pressions, fortes température. Est-ce que c'est ce que vous étudiez à la Commission géologique du Canada?
Entre autres, alors on étudie beaucoup de choses qui couvrent un large pan des géosciences. Mais moi, ma spécialité, c'est plutôt ce qu'on appelle le métamorphisme. Le métamorphisme, c'est la science, en tout cas, c'est les roches qui ont été transformées à haute pression, haute température. Et puis, ces roches-là, c'est le fun parce que, encore une fois, c'est un peu comme des livres, elles enregistrent ce qui s'est passé. Et parfois, c'est les seules archives géologiques qu'on a des anciennes chaînes de montagne ou aussi, par exemple, ce qui se passe dans les chaînes de montagne actuelles. Alors, par exemple, en Himalaya, qui est une chaîne de montagne qui est en train de se faire aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe à 30 km de profondeur parce qu'on n'a pas d'accès direct. Alors, on a des accès indirects avec des moyens géophysiques, par exemple, mais on n'a pas d'accès direct. Alors, pour pallier à ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir des chaînes de montagne qui sont plus vieilles, qui ont été érodées, et pour celles-ci, on a accès à leur cœur. Et donc, on étudie les roches qui ont été à un moment au cœur d'une chaîne de montagne pour en déduire des grands processus géologiques relatifs à la tectonique des plaques. Et puis, c'est ça, en étudiant la chimie de ces roches-là, la minéralogie de ces roches-là, en les datant, on est capable de dire à quelle profondeur elles ont été, à quelle température, combien de temps elles sont restées en profondeur, quand est-ce qu'elles ont été remontées à la surface. Et grâce à ces témoins-là, on essaye de tant bien que mal, de reconstruire la tectonique des plaques dans une région donnée à un moment donné.
Ah ouais, on est capable de lire tout ça quand on prend un échantillon de roche, on est capable de raconter toute cette histoire-là.
On est capable de raconter toute cette histoire-là, ouais.
En faisant quoi? On quantifie les atomes, les minerais, comment on fait?
Alors, pour les dater...
On fait des coupes minces, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, alors souvent, nous, on va sur le terrain, donc on récupère on observe les roches, les relations entre les roches, les relations de recoupement. On sait qu'une roche qui recoupe une autre, elle est forcément plus jeune, donc tout de suite, là, on a un indice. On prend des échantillons, on va en laboratoire, on fait ce qu'on appelle des lames minces. C'est des lames qui font environ 30 micromètres d'épaisseur, qu'on regarde au microscope. Puis comme les minéraux ont tous des propriétés optiques différentes, on est capable de les reconnaître. On regarde un petit peu les textures, on est capable de dater les roches. Donc ça, souvent, c'est avec des approches des radiochronomètres, donc la radioactivité naturelle des roches. On est capable de les dater. Et puis, pour estimer la pression et température, là, on fait plutôt ce qu'on appelle de la modélisation d'équilibre de phase. C'est un terme un peu compliqué, mais on est capable de quantifier relativement correctement, avec des incertitudes relativement correctes, la pression et la température.
OK. Donc, quelle pression et quelle température? On fait des modèles pour voir qu'est-ce qui a pu se produire en termes de pression, température, pour arriver à l'état des roches qu'on observe aujourd'hui.
Exactement. Mais les roches, elles se transforment. Donc, une roche qui a une certaine composition chimique, elle va avoir une certaine minéralogie en surface. Mais si je l'envoie à 30 km dans la croûte, sa composition va rester quasiment la même, mais sa minéralogie, les minéraux qui la composent vont changer.
Donc là, c'est quoi la différence là, entre la composition, les minéraux? C'est quoi en fait un minéral?
Alors, les roches sont toutes composées de minéraux. Et cette composition-là est dictée par la composition chimique de la roche.
Okay.
Et donc, pour une composition chimique donnée, à une pression et température donnée, la roche va cristalliser certains minéraux. Et donc, si on est capable de les reconnaître, ça nous donne des indices, encore une fois, sur son histoire.
C'est vraiment passionnant. Là, des fois, je regrette de ne pas avoir fait de la géologie pour être capable de lire, de lire le livre de la Terre quand je me promène.
Ouais, c'est ça. Il faut aller se balader avec des géologues en randonnée, en général.
Est-ce que la commission géologique fait des randonnées grand public?
Alors, on fait des activités grand public, certaines qui sont récurrentes, notamment, c'est ça, c'était hier. Mais l'année prochaine, je vous donne rendez-vous là. On va sûrement réorganiser de quoi pour la Journée internationale de la géodiversité. C'est ça, un autre rendez-vous sinon qu'on aime faire, c'est le Lévisium, qui est un festival de sciences à Québec.
À Lévis.
Et alors, souvent là, on a aussi des roches, on présente la géologie de Québec. Donc oui, ça fait partie de notre mandat là, c'est sûr.
Bon, c'était vraiment passionnant, on a presque hâte. Est-ce que de faire ces études là en fait, est-ce que c'est juste pour comprendre comment se sont formés les Himalayas, ou est-ce que ça donne aussi des indices sur les ressources minières?
C'est les deux. Il y a des aspects de sciences fondamentales. On essaye vraiment de comprendre les processus géologiques fondamentalement. Mais oui, il y a une partie application pour l'industrie minérale. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien direct là entre les failles, la formation des gisements. Donc, on a besoin de comprendre tout ça si on veut trouver les prochaines cibles. Puis, c'est de plus en plus dur à trouver des gisements, parce que ceux qui étaient faciles, on les a trouvés. Et donc, maintenant, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Donc, repousser nos idées, repousser les modèles, challenger les modèles existants, puis proposer des cibles d'exploration à l'industrie minérale.
Très bien, c'était vraiment passionnant. Je regrette de ne pas avoir été hier à la visite de la chute Montmorency. Ça m'aurait permis de la voir autrement que comme un robinet d'eau.
La prochaine fois.
Alors je vous remercie beaucoup Antoine Godet pour cette initiation à la géologie, et je rappelle que vous êtes chercheur scientifique à la commission de géologique du Canada.
Merci beaucoup.
Alors on va se quitter en écoutant Roche de Antonio. Voilà, c'était Roche de Antonio. Alors, il n'y avait pas beaucoup de paroles et on ne sait pas où étaient les roches, à moins de les imaginer à travers la mélodie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine. On parlera de l'horizon cosmologique et on reviendra aussi sur cette nouvelle scientifique dont vous avez peut-être entendu parler cet été, des chercheurs de la NASA et autres qui ont découvert des peut-être possible, éventuellement, trace d'ancienne vie sur Mars. Alors, on en parlera la semaine prochaine. Et maintenant, je vous laisse poursuivre votre soirée sur CKRL 89.1 en écoutant En aparté avec Calypso le Moine.
CKRL 89.1. CKRL 89.1.
À ne pas manquer, à l'auditorium du Cégep de Lévis, samedi 11 octobre à 19h30, Comme chez nous, le sixième show de Réal Bélan, un spectacle qui entre dans l'intimité d'un comique. Samedi 18 octobre à 19h30, Cette voix se veut un témoignage d'affection de Dan Bigras envers son ami Jerry Boulet. Leur parcours unique vous sera raconté au travers d'anecdotes et de chansons. Samedi 15 novembre à 19h30, Luce Dufault, Lulu Hughes et Kim Richardson. Les trois interprètes se retrouvent ensemble sur scène dans un nouveau spectacle intitulé « Elle ». Informations et achats au espacedcl.ca.
Pour sa 34e édition, les Rendez-vous Estrades de Québec présentent une programmation resplendissante de chansons, gigues, musique et danse traditionnelle. Au menu, veillées participatives, spectacles, ateliers pour petits et grands, causeries, apéros et fin de soirée musicale. Du 9 au 13 octobre 2025, au Domaine Meseret, participez à un festival où toutes les générations se côtoient dans la joie des traditions vivantes. Tous les détails au cvpv.net/rendez-vous.
Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz vocal avec Elizabeth Sheppard. Call up my soul, is in need of finding some direction. Figure incontournable de la scène soul jazz, elle vient présenter son nouvel album, Three Things, dans une formule trio intimiste et vibrante. Un jazz moderne, des envolées instrumentales et des chansons qui touchent au cœur. Le 18 octobre, préparez-vous à tomber sous le charme d'Elizabeth Sheppard au Palais Montcalm, Maison de la musique. Détails au palaismontcalm.ca.
Au Fonds d'emprunt Québec, nous sommes fiers d'accompagner les entrepreneurs d'ici. C'est pourquoi, en collaboration avec le Service de développement économique de la Ville de Québec et la Caisse des Jardins de Québec, nous avons lancé Trampoline, boutique éphémère, dans le cadre d'un projet d'incubation commerciale. Cet espace unique permet aux entrepreneurs de tester leur marché en toute confiance. Située au 600 rue Saint-Joseph-Est, la boutique éphémère Trampoline est un lieu de découverte pour des achats de produits locaux faits par des entrepreneurs et des artisans de la région. Passez les voir!